Voilà. Moi, j'ai aussi beaucoup apprécié cette journée hier. Et ce qui nous a été communiqué était vraiment très intéressant. Ça nous faisait réfléchir, ça nous poussait à sortir de ce qu'on pensait savoir. Et ce que j'ai apprécié par-dessus tout, c'est le fait qu'on le vive ensemble. C'était une belle journée pour ça. J'ai vraiment aimé. Et puis je vais, d'une certaine façon, continuer ce qu'on a vu hier après-midi pour ceux qui étaient là. Mais tout en restant dans l'épître aux Romains, comme ça j'essaie de satisfaire tout le monde, vous voyez. Je deviens suisse, je cherche des compromis. Et en fait, dans les pistes qu'elle a utilisées l'après-midi, donc Madame Jacquet, pour nous parler de comment sortir des faux fonctionnements, elle a développé le thème de comment établir notre identité dans ce que Dieu pense de nous et pas dans ce que les autres pensent de nous, etc. Alors je voudrais lire un texte qui est un petit peu long, mais c'est la difficulté avec Romains, c'est des grandes envolées, on ne peut pas les couper un tout petit bout, quoi. Alors essayez de suivre. Romains chapitre 7, à partir du verset 14. En plus, Paul, c'était pas le champion pour écrire les choses simplement, hein. Il répète, il revient, il repart, il recommence, il n'y a pas de virgule, c'est long. Mais c'est comme ça que Dieu nous l'a communiqué. Romains 7, 14. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi. C'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Je vais m'arrêter là pour maintenant. J'aurais aimé continuer encore parce que on coupe des choses qui ne doivent pas être coupées, mais tant pis, vous relisez-les chez vous. En parlant de notre identité, justement après avoir le matin posé des questions où elle nous a permis de réfléchir sur toutes les choses qui paraissent pas mauvaises mais qui sont fausses et sur lesquelles on peut baser notre identité, hein. Je suis celui qui aide les autres. Je suis celui qui renonce pour les autres. Je suis celui qui souffre pour servir Dieu. Je suis tout ce genre de pensées qui semblent très chrétiennes, mais qui sont pas ce que Dieu veut. Et nous devons laisser ces choses-là, ça c'est d'une part. Pour d'autre part, construire une identité qui est basée sur ce que Dieu pense de nous, Dieu dit de nous, et sur ce que Dieu a fait pour nous. Et qui rend possible d'avoir une autre identité. Et là, ce débat de Paul, ici, on a un petit peu, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans les psaumes quand David, on a l'impression, pense à haute voix, hein, et puis nous raconte ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, moi, souvent, quand je lisais les psaumes, je me disais, mais David, il est un peu schizophrène ou quoi? On dirait qu'ils sont deux quand ils discutent, hein. Et j'ai dit à mon âme, fais ça, mais mon âme avait pas envie, et puis j'étais là. Et Paul, on voit qu'il y a ce combat intérieur qui est là. Et je pense, en fait, si on est honnête, si on prend le temps de réfléchir, de s'arrêter, on vit avec ça, hein. Il y a toute cette part en nous, en tant que croyants, avec l'éducation qu'on a, la connaissance de la Bible, etc., on sait ce qu'on devrait faire, on sait ce qu'on devrait être, on sait dans quelle direction on voudrait aller. Et puis, même si on vit pas dans des choses horribles et terribles et dramatiques, il y a la réalité qui est cette distance entre les deux qui nous fait souffrir, qui nous trouble, qui nous embête, qui nous gêne, qui nous dérange. Et si on ne sait pas comment la gérer, ben on va faire la chose la plus simple, tactique de l'autruche, hein. Je reste occupé pour pas penser à ce malaise intérieur. Alors selon mon tempérament, ma culture, mes dispositions, je peux m'occuper avec des choses chrétiennes, hein. Je vais m'occuper des autres, je vais faire des choses, je vais m'engager à l'église. Si je suis un peu en révolte contre l'église, je vais m'occuper en faisant du bruit, en allant faire du sport, en faisant ci, en faisant ça. Ces choses-là sont pas mauvaises, mais si elles sont là pour m'empêcher de faire face au mal-être qu'il y a en moi devant ce conflit, alors elles sont pas bonnes. Pas parce qu'elles sont mauvaises, encore une fois, en elles-mêmes, mais parce que elles me permettent de fuir au lieu de m'arrêter pour chercher une solution. C'est intéressant de souligner que la personne qui parle là, Paul, c'est pas quelqu'un qui a grandi, vécu dans l'immoralité avec une tendance à faire n'importe quoi. On a là à peu près ce qui peut se faire de plus pointu en domaine de recherche ascétique. Paul, c'est quelqu'un qui a grandi avec une culture très précise, la culture juive, avec des lois pour toutes choses, dans tous les détails, pour tout. C'était quelqu'un avec une personnalité extrêmement forte, c'était quelqu'un d'engagé, c'était un fanatique d'une certaine façon, hein, un fanatique religieux, extrémiste et fondamentaliste, qui allait jusqu'à ben, vouloir mettre à mort tous ceux qui ne pensaient pas comme lui. Bien. Donc, prêt pour ça à sacrifier tout. C'était le but de sa vie. Donc, on n'a pas ici. Je dirais un petit ado du XXe siècle qui a été habitué à faire que ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, à qui ses parents n'ont jamais rien refusé, et puis qui dit « Oh, c'est dur le matin de se lever pour aller travailler hein? » Non, on a un gars qui était dur avec lui-même, qui était rude, qui était violent, qui était déterminé, qui était prêt à tout ce qui est possible de faire par la volonté. Et quand on entend son constat, c'est quand même assez effrayant. Je sais ce qui est bien. Et j'arrive pas à le faire. Et je sais ce qui est pas bien et j'arrive pas à m'empêcher de le faire. C'est l'apôtre Paul qui écrit ça. Il écrit ça des années après être devenu un vrai croyant. C'est pas un incrédule qui dit ça. C'est pas un athée. C'est pas un de ces sales païens barbares pourris qui assassinait. Non, non. C'est le mieux de ce qui existe dans la morale. Mais il est honnête et puis il dit, j'y arrive pas. Oui, je peux faire semblant, je peux devenir un hypocrite comme beaucoup de pharisiens qui ont été dénoncés par Jésus. Mais si je suis honnête, au fond de moi, cette lutte-là, elle me perturbe profondément. Et c'est pour ça que le résultat de cette réflexion, c'est malheureux que je suis, dans notre traduction, misérable que je suis, pauvre de moi. C'est trop compliqué. Et je crois que, ben, malheureusement, beaucoup de croyants, et moi à certains moments, ce combat est tellement, nous fait tellement peur qu'on préfère le fuir. Encore une fois, pas forcément en se roulant dans l'immoralité, hein, mais en se tenant suffisamment occupé pour essayer de ne plus y penser. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut nous libérer par Jésus-Christ. Et donc la première chose qu'on voit, c'est que Paul met comme point d'entrée, c'est que la loi n'est pas mauvaise, mais elle n'a pas pour but de nous transformer. C'est un peu comme si vous voulez savoir si vous êtes en bonne santé et vous allez faire un bilan de santé. Le bilan, il n'est pas méchant, il n'a pas de mauvaises intentions vis-à-vis de vous. Mais il va diagnostiquer exactement ce que vous avez. Quand vous retournez voir le médecin et qu'il vous dit, ben voilà, il y a du cholestérol, il y a un peu trop de triglycides, il y a du gras dedans, où il faut pas, il y a un peu trop de sucre, la tension est un peu trop haute, et puis il faudrait faire une radio pour vérifier un petit peu ça. Il n'y a aucune méchanceté là-dedans, mais c'est rude, parce que ça vous dit où vous en êtes. Mais en même temps, aucun diagnostic n'a jamais pu vous guérir. Avant, je ne savais pas que j'avais de l'hypertension, maintenant je le sais. Ouais, super. Avant, je ne savais pas que j'avais du cholestérol, maintenant je le sais. Avant, je ne savais pas que j'avais du diabète, maintenant je le sais. Avant, je ne savais pas que mon cœur battait trop vite, maintenant je le sais. Hein? Et puis imaginez que le médecin vous renvoie chez vous et puis vous dites maintenant, ben voilà, pas plus. Il vous prescrit aucun médicament, il vous explique pas ce qu'il faut manger, ce qu'il faut changer dans votre vie, il vous laisse avec le diagnostic. C'est terrible. Vous rentrez chez vous, vous avez une nouvelle connaissance, vous savez que vous êtes en mauvaise santé. Mais aucun outil pour changer. La loi a ce rôle-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller faire des examens. Ils préfèrent ne pas savoir. Parce que au moins, ben, je sais pas, je suis tranquille. Ce qui me paraît stupide, mais c'est ce que nous faut être tentés de faire avec la pensée de Dieu. Si je m'approche de Dieu, si je médite, si je lis la Bible, si je vais dans des rassemblements chrétiens, si je réfléchis avec Dieu tout simplement, je vais avoir un diagnostic de mon état. Et puis après, je vais rentrer chez moi et je vais avoir compris un peu mieux que je ne suis pas parfait, que je ne suis pas sain, que je suis méchant, que je suis tordu, que je suis ci, que je suis ça. Super, ça va vraiment m'aider. Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Et là, Paul continue. Et au milieu de cette lutte, une chose qui est intéressante, c'est qu'il va laisser la pensée de Dieu séparer les choses. Un verset dans l'Épître aux Hébreux compare la parole de Dieu avec un outil de chirurgien, un bistouri bien aiguisé, en plus qui taille des deux côtés, pour faire bzip-bzip dans les deux sens comme ça. Et vous savez que dans certaines, je ne suis pas du tout dans le domaine médical, mais dans certaines maladies, hein, il faut arriver à séparer ce qui n'est pas bon du reste du corps qui est sain. Et puis c'est très difficile parce que bah, si on enlève trop de ce qui est bon, ça va pas. Et puis si on laisse de ce qui est pas bon, ça va pas non plus. Voilà. C'est exactement l'image qui est utilisée là. Lorsque Paul dit je sais que ce qui est pas bien est en moi, mais quand je vois le mal qui agit, je reconnais que c'est pas moi, c'est le péché qui est en moi. Alors bien sûr, il faut pas utiliser ça de façon contraire au bon sens et pour excuser le fait qu'on fait le mal. J'ai connu un exemple très comique avec un jeune homme que mon fils connaît bien d'ailleurs. C'était dans une école chrétienne et puis moi j'étais là pour faire un travail autre, mais j'observais la classe en même temps que je faisais mon travail. Puis il y avait un jeune de 12 ans là, et puis il s'arrêtait pas de parler, puis il parlait, puis le professeur essayait de faire son cours, mais lui il parlait, 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 parlait. Puis le matin ils avaient eu un enseignement sur ce texte biblique parce que c'était une école chrétienne. Puis au bout d'un moment l'enseignant lui dit est-ce que tu pourrais te taire? Et puis il dit, mais monsieur, je peux pas. C'est pas moi, c'est le péché qui est en moi. Je peux pas me taire. Alors l'enseignant lui dit, bon, ben ok, je comprends, effectivement, ouais, très bien. Ben, si tu veux, j'ai quelque chose à te proposer pour. Ah, c'était presque la fin de la journée, pour après les cours. Alors la journée continue, se termine, il continue de parler. Puis tout le monde allait partir, et puis il dit au jeune, ben viens voir maintenant, écoute, je comprends ton problème, c'est très très grave, effectivement. C'est pas toi, c'est le péché qui est en toi. Alors ce que j'ai fait pour décider, j'ai décidé de t'aider, j'ai décidé de prendre les 2 heures qui viennent maintenant, et puis je vais t'écouter, comme ça tu pourras parler. Et puis, il pouvait plus parler. Comme... Alors pourquoi je cite cet exemple? Juste pour dire, bien sûr que je peux pas juste faire ce qui est mal, et puis me dédouaner en disant, c'est pas moi, c'est le péché qui est en moi. Hein? Ah mais non, 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 c'est pas moi qui ai volé ta voiture, c'est le péché qui est en moi. Hein, c'est pas moi qui recommençais de boire, c'est le péché qui est en moi. C'est pas ça. Mais quand même, ce que Paul met là comme premier point, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, lorsque je pèche, donc lorsque je sors du plan parfait de Dieu, c'est pas mon identité. C'est pas moi. Oui, c'est moi. Et je suis responsable. Mais c'est pas mon identité. Je sais pas si vous avez jamais noté ça comme quelque chose d'étrange, quand Jésus rencontre un aveugle, ou un boiteux, ou un lépreux, et qui lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? C'est pas que c'est bizarre. Je suis aveugle, j'attends le passage. Jésus, aide-moi! Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Que j'enlève tes cors aux pieds, que je fasse repousser tes cheveux? Non, je suis aveugle, hein? Mais chaque fois, souvent, Jésus le demande. Pourquoi? Parce que, l'identité de ces gens-là était dans le fait qu'ils étaient aveugles, boiteux ou lépreux. Ils vivaient de ça. Accepter d'être guéri, c'était du jour au lendemain, dans un système où la sécurité sociale n'existait pas, se retrouver à devoir déjà être comme les autres, plus de pitié, à devoir retourner travailler, à devoir s'en sortir tout seul. C'était, alors ça nous paraît bizarre parce qu'on se dit, bah, si je suis boiteux, je veux marcher, si je suis aveugle, je veux voir, si je... Mais si on transpose ça pour nous, très souvent, nous créons notre identité sur des choses qui sont pas bonnes. Quand on passe de l'enfance à l'adolescence et qu'on commence à essayer de définir qui on est, alors on se définit par rapport aux choses et aux gens qu'on n'aime pas. Hein. Je veux pas être comme mon père, je veux pas être comme mon prof, je veux pas être comme mon voisin. Et puis on se définit par rapport aux gens ou aux choses qu'on aime, nos héros, nos idoles, etc. Je veux être comme eux, lui, je veux être comme elle, etc. Et là-dedans, ben, on va pas toujours et pas tous réussir à construire quelque chose de positif. Hein. Je suis pas le plus intelligent, je suis pas le plus beau, je suis pas le plus rapide, je suis pas le plus doué, mais je peux être l'imbécile du groupe. Je peux être celui qui boit plus que tout le monde. Je peux être celui qui fait des choses complètement folles, qui risque sa vie à chaque fois. Je peux être beaucoup d'autres choses comme ça. Et je construis mon identité dans des choses qui sont négatives, mais c'est moi. Et j'y tiens. Et c'est pour ça que le temps passe et au bout d'un moment, il n'y a plus cette distinction entre ce que je fais qui est mal et moi. Je suis devenu mon péché. Je suis devenu ma façon fausse de penser, d'être, de paraître, etc. Et là, j'ai pris des exemples avec des choses négatives, mais ça arrive beaucoup plus souvent dans les églises que je construis mon identité sur des choses qui paraissent positives, comme on a vu hier, hein. Ah ben moi, je suis celui qui est toujours d'accord, moi, je suis celui qui donne toujours un témoignage, moi, je suis toujours celui qui prie dans le groupe de jeunes, moi, je suis celui qui va toujours évangéliser, moi, je suis toujours celui qui n'oublie pas sa Bible, moi, je suis celui qui se plaint jamais, moi, peu importe. Mais on crée une identité indépendamment de celle que Dieu veut nous donner et qui est liée à l'œuvre de Christ. Et puis on reste enfermé là-dedans. Et la vie passe, et puis ben, plus le temps passe, plus on est prisonnier là-dedans. Et là, il y a ce décalage, cette souffrance, ce combat que Paul nous rapporte ici. Parce que entre ce que les gens voient de moi et ce que moi je sais que je suis, il y a une différence. Et puis entre ce que moi je donne comme impression et puis ce que moi je sais que je suis, il y a une différence. Et cette différence entre les deux, elle me fait souffrir et elle m'amène dans un cercle vicieux à replonger dans mon erreur. Que mon erreur soit d'aller boire ou que mon erreur soit d'être le gentil petit garçon à l'église qui fait tout bien. C'est le même principe. Un des deux fait plus de mal à la santé que l'autre. Mais le principe est le même. C'est pas mieux ou moins bien. Et Paul luttait avec ça. Paul avait les mêmes problèmes parce qu'il était un être humain et que tous les êtres humains doivent faire face à cette chose-là. Et ces tensions vont avoir une issue positive pour lui parce qu'il accepte de leur faire face. Et puis ça, on sait que dans tous les problèmes, quels qu'ils soient, les difficultés de dépendance, nous en avons tous, c'est impossible qu'il y ait une action de libération et de guérison tant que je suis dans le déni. Tant que je dis non, non, tout va bien, non, moi je suis un bon chrétien, moi c'est super. Moi. Ah oui, je fais ça, mais tout le monde le sait, mais tout le monde le fait, c'est normal. Hein. Il faut prendre le temps de s'arrêter, de faire face au malaise et puis de dire, il y a un problème, ça va pas. Quand Paul dit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ça? C'est parce qu'il s'est arrêté et qu'il a fait face à ce conflit intérieur et que la conclusion c'était, j'y arrive pas. Je continue de savoir ce qui est bien et je le fais pas et je continue de savoir ce qui est pas bien et je le fais quand même. Peu importe ce que c'était. La Bible ne nous le dit pas. Mais il fait face à ça. Et puis, parce qu'il reste là à vouloir faire face à cette réalité, à l'accepter comme elle est, Dieu peut faire son travail. Et puis, on a la suite. Hein. Après, misérable ou malheureux que je suis, hein, Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Et puis, ben, on n'a pas le temps de le voir ce matin. On verra peut-être dimanche prochain, je ne sais pas. On arrive dans le chapitre 8 de Romains où Paul va développer comment, en vivant sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, je peux être libéré ponctuellement, momentanément, de ce dilemme, de cette pression. Il faut qu'on comprenne qu'en tant que croyant, on est des malades incurables de toute façon et le meilleur traitement que Dieu ait à nous proposer sur Terre peut nous permettre de vivre à peu près normalement si je prends mon traitement plusieurs fois par jour, tous les jours. Il n'y a pas une expérience un jour qui ferait que ça y est, poum, j'ai atteint la sainteté, ou en tout cas, je suis débarrassé de tout, tout va bien. Non. Si chaque jour, quand je me lève, j'apprends pas à vivre sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, alors je vais vivre une journée comme ce que Romains 7 nous décrit. Tension, hypocrisie, difficulté, fuite en avant, etc., etc. Selon, encore une fois, selon nos tempéraments, notre caractère, ça va se manifester différemment. Mais si quand je me lève le matin, ma vie, concrètement, pas, je parle pas de formule ici, de lire un chapitre ou deux, ou prier, ou si ou ça, mais je dois apprendre jour après jour, moment après moment, et chaque fois que je m'aperçois que je le fais pas, à vivre dans la dépendance du Saint-Esprit, hein, sous l'œuvre de Christ qui va me libérer. Parce que la loi, elle est là pour faire le diagnostic. Et puis c'est bien qu'elle y soit. Hein. C'est pour ça qu'une fois par an, après un certain âge, on fait un bilan, ou deux fois par an selon l'âge, pour sans arrêt rappeler que il y a un problème. Hein, parce qu'on peut vite l'oublier. Donc la loi, elle n'est pas mauvaise. Mais comme le dit la suite, verset 3 du Romains 8, hein, la loi était incapable de le faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante. Elle ne peut pas nous changer. Savoir que je suis mauvais et savoir jusqu'à quel point je le suis, ça ne me change pas. Et la culpabilité peut changer personne. La peur du châtiment peut changer personne. La crainte peut changer personne. Ça n'a jamais marché. Ouais, 5 minutes. Mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Pendant des milliers d'années, Dieu a testé cette méthode-là. Il savait qu'elle ne marchait pas lui-même. Mais elle a été testée. La loi a jamais rendu quelqu'un meilleur. Par contre, elle lui permet de s'apercevoir qu'il a besoin de Christ. Et qu'il en a besoin, pas une fois je signe un contrat et puis c'est fini, ciao, on se revoit au ciel. Non, à chaque moment de ma vie, j'en ai besoin. Dans chaque situation. Et alors on va dire, ouais, mais alors c'est compliqué. Ça veut dire que je dois revenir à Christ 30 fois dans la journée, selon mon état. Ben oui, 30 fois, c'est encore une bonne journée. Moi, des fois, c'est plus. Des fois, c'est moins. Des fois, on passe à côté, bien sûr. Mais c'est pas acquis. C'est pas... Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, ah ben alors lui, il est spirituel, lui, il n'est pas, lui, non. À un moment donné de ma vie, à un point arrêté, peut-être qu'à ce moment-là, je suis dans la conscience de la présence de Dieu, dans la dépendance de son esprit, et le mal en moi est neutralisé. Mais 10 minutes avant, 10 minutes après, ça peut être différent. Et puis mon frère le vit différemment à un autre moment. C'est pour ça qu'on a tous des moments de haut, de bas, des chutes, des difficultés, des combats. Hein. Et c'est pour ça que tout ce que Dieu nous a donné pour la vie chrétienne, il n'y a rien qui est en option supplémentaire. Pourquoi on se retrouve comme ce matin ? C'est pas écrit dans la Bible que c'est ce matin à 10h dans cet endroit-là. Et pourquoi on a besoin de se retrouver en tant que croyant ? Ce n'est pas pour faire plaisir à Dieu, ce n'est pas pour remplir des statistiques, ce n'est pas pour occuper des chaises vides. C'est parce que c'est un des éléments que Dieu nous a donné pour que l'Esprit de Dieu puisse diriger nos vies. Pourquoi on prend du temps d'une façon ou d'une autre, au rythme qu'on veut, comme on veut, pour réfléchir, méditer, penser à ce qui est dans la parole de Dieu ? Parce que c'est ce qui fait que l'Esprit de Dieu en nous prend sa place et nous permet de neutraliser ces choses-là. Pourquoi on a une vie de prière ? Prière, c'est dialoguer avec Dieu, hein. C'est pas juste lui présenter notre liste de courses. Pourquoi on a besoin de prier ? Parce que c'est ce qui, ça fait partie des choses qui, etc., etc. Pourquoi j'ai besoin de partager ma foi ? Parce que ça fait partie des choses qui vivifient l'Esprit de Dieu en moi, qui lui permettent de. Donc, il n'y a jamais rien d'acquis, il n'y a jamais rien de gagné, mais on peut toujours revenir en même temps, c'est jamais trop tard. Et puis, chaque fois qu'on échoue, ça va arriver, qu'on va laisser de nouveau le mal en nous gagner, et ça va se traduire par, dans le monde visible, ce que je vais faire ou ne pas faire, qui va m'amener à pécher. Je dois me rappeler, oui, j'ai chuté, bien sûr, c'est moi qui l'ai fait, et je vais peut-être en payer les conséquences, mais c'est pas mon identité. Si mon problème c'est l'alcool et que régulièrement je retombe à me retrouver, quand je me réveille après ma cuite, je dois pas dire, je suis un alcoolique. Alors, effectivement, oui, je vis dans l'alcool, c'est un problème. Mais Dieu ne me voit pas comme un alcoolique. Il me voit comme son enfant pour qui Christ est mort et il m'a racheté. Et si c'est une chose plus grave, c'est plus grave, différent. Si c'est mon problème, c'est la colère, la convoitise, la paresse, j'en sais rien. Ou c'est juste que je fais pas ce que je devrais faire. C'est un péché aussi. Peu importe. Mais c'est pas comme ça que Dieu me définit. Et nous avons tendance à le faire. Et puis surtout, le diable veut que nous le fassions, que nous définissions par nos échecs, par nos rechutes, par ce qui est chronique chez nous dans le mal. Alors oui, le constat est à faire, misérable que je suis, j'y arrive pas, mais il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui vivent sous la direction de l'Esprit de Dieu. Et puis, y a tout le reste à développer. Alors, on continuera ça une autre fois. Mais juste gardons ça, méditons-le, relisez ces passages, peut-être pour vous aussi. Sur quoi je crée mon identité? Et puis comment je peux toujours plus être fortifié dans cette identité que Dieu me donne. C'est pour ça que c'est le même personnage, l'apôtre Paul, qui dit ailleurs, 1 Corinthiens 15, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ou encore ailleurs, quand il dit, l'amour de Christ nous étreint, nous tous qui avons compris que Christ est mort pour nous, etc. C'est cette immersion dans cette identité de fils de Dieu qui va nous permettre, petit point par petit point, les uns à côté des autres, de tracer une ligne où nous allons être vainqueurs du mal. Parce que c'est possible. Je suis pas en train de dire qu'on va vivre dans la défaite. On veut vivre dans la victoire et c'est possible. Mais c'est possible une victoire après l'autre, seconde après seconde presque, minute après minute, en vivant de la vie de Dieu pour être vainqueur. Et quand je chute, ben je confesse mon péché à Dieu, je me relève et je recommence. Jusqu'à 7 fois, 77 fois dans une journée, c'est pas grave. Mais en tout cas, je fais pas l'autruche et puis je vais vers lui. Seigneur, on te prie de nous aider avec ces pensées-là, que pour chacune de nos situations, tu les appliques à nos vies. Que ce soit pas une théorie ou une recette, mais que ça nous permette de nous tourner vers toi, de te connaître, de te rencontrer plus, mieux, différemment, plus en profondeur, et que tu viennes prendre la direction de nos vies. Aide-nous à nous détacher de nos fausses identités et à nous ancrer toujours plus dans celle que tu nous donnes, celle qui vient de toi, de ton amour, de ta grâce, de ton pardon. Rendu possible par ce que Jésus a accompli pour nous. Merci de nous aider à le développer et à en être les témoins, Seigneur. Merci pour cette journée, pour la possibilité de la vivre les uns avec les autres et dans ta présence.